c'est parti pour le pressing du jour avec Amblin Roche et Paul Lassen. D'abord, un coup d'œil aux unes de vos journaux. Avec d'abord du positif, enfin, de bonnes nouvelles. Le lever de rideau se prépare, se réjouit le courrier Picard. Les petits commerces s'activent pour rouvrir demain matin à Toulouse. On attend le retour du public aussi dans les stades. La dépêche du midi évoque la date du 15 décembre. Et à Bordeaux, Sud-Ouest propose ce matin un mode d'emploi pour Noël, ce qui sera possible et ce qui ne le sera pas. Les Français face au casse-tête d'un Noël sous contrainte, c'est aussi la une du Figaro, qui publie un sondage. 63% des Français, les deux tiers, réveilleront à la maison en comité restreint. Mais un peu partout en France, vos journaux relayent aussi la colère de ceux qui ne seront pas concernés par cette première étape du déconfinement. Cafetiers, restaurateurs, gérants de discothèques, ils ont manifesté à Marseille. C'est non, titre La Provence. La démonstration de force, ajoute l'Indépendant. Tandis que Midi Libre fait le compte des gagnants et des perdants. Le désarroi des hôteliers est aussi à la une de la Montagne. Puis, celui des étudiants est en première page d'aujourd'hui en France. Les étudiants cantonnés à suivre les cours à distance, désocialisés, privés de job. Beaucoup tombent dans la précarité. L'année noire, titre le journal. On en parlera tout à l'heure avec mon invité à 6h40. Enfin, il faut signaler ce matin la une de Libération avec le visage ensanglanté de cet homme violenté par des policiers à Paris samedi soir. On en parlait tout à l'heure. Et ce titre en grosses lettres, la nausée. Voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention. Et c'est vendredi, on va être un peu plus léger que d'habitude. Amblin, on entre dans la période de Noël, donc c'est magique pour les petits, mais pas seulement. Pas mais que
non,
pour
pas
les petits.
Seulement. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ou ça vous arrive encore, hein, vous glissez dans la chambre de vos enfants ou de vos neveux fascinés par le bateau pirate.
Ouais.
Le bateau pirate Playmobil qui trône sur la commode, bateau qui flotte par ailleurs. Ça flotte très très bien dans la baignoire. Au début, c'était pour donner un coup de main au petit dernier. Oui, il est bien ce bateau. Et puis finalement, la maison Lego, c'est vous. Qu'il avait fait, tout seul. Des adultes qui jouent, qui continuent de s'amuser avec des briques, avec des figurines passées 30 ans. Ils sont dans Libération. Jouer leur procure du bien-être. Jouer permet de se défouler, de se vider la tête. Certains sont raisonnables, d'autres un petit peu moins. Le journal nous présente Nathalie, 47 ans, passionnée de Playmo. Elle consacre deux pièces de sa maison au stockage et une pièce entière au diorama. Oui, car jouer, c'est aussi s'exprimer à travers des créations. Mm-hmm. On peut mélanger les pièces, être un petit peu foutraque. On peut s'en tenir à un seul thème aussi, comme Lucien, 43 ans, qui reste fasciné par l'époque victorienne. On est toujours dans le monde Playmobil. Attention, il ne fait pas parler ses personnages. Ce qui l'intéresse.
C'est ce qu'il dit. Ouais.
Bon, c'est le travail abouti. Quand la scène est figée, quand elle est jolie, quand elle est cohérente. Pour Philippe, 49 ans, ça a été Noël avant l'heure quand il a reçu son Ford Western Playmobil. Il joue avec son enfant de 3 ans qui a bien grandi, et il s'y est remis avec sa femme lors du premier confinement. 3000 euros ont été consacrés à leur collection.
Ah oui,
la passion Lego, oui, a été ranimée chez Marie-Noël à la naissance de son fils. Aujourd'hui, elle se revendique affole, c'est-à-dire adulte fan of Lego. Et que Marie-Noël et les autres soient prévenus, ils vont pouvoir légoter, c'est ce qu'on dit, légoter demain avec un tout nouveau Colisée romain de 9036 pièces. Voilà, puisque les commerces rouvrent. Des adultes qui jouent, qui ne font pas que collectionner, qui jouent, c'est dans Libération.
Je suis très concerné par cette histoire, il faut savoir.
Lego.
J'ai fêté mes 30 ans il y a un mois. Mm-hmm. Et quelqu'un qu'on connaît très bien ici, qui prend l'antenne dans une heure et quelques minutes, m'a offert une grosse boîte de Lego de la série Friends.
C'est la nouvelle collection.
Voilà, absolument. Donc je fais partie de ces nouveaux.
Ça fait partie de la nostalgie.
Vous prendrez en photo pour voir quand ce sera fini.
Moi, je suis très nostalgique des jeux de société, les Qui est-ce, Puissance 4 ou autres jeux de notre enfance. Paul, on va en Angleterre,
oui.
Où la série phénomène The Crown, qui raconte donc l'histoire d'Elisabeth II, la reine, réveille les blessures de la monarchie.
Oui, c'est ça, quand la fiction remet sur le devant de la scène la souffrance de la réalité. C'est l'histoire que nous raconte Madame Figaro. Donc la saison 4 de la série Netflix a littéralement ravivé la douleur de certains citoyens britanniques. Puisque les derniers épisodes de la série de Netflix, sortis il y a quelques semaines, s'attaquent au mariage tumultueux du prince et de la princesse de Galles depuis leur première rencontre en 1977 jusqu'à 2 ans avant leur séparation en 1992. Et bien évidemment, sans éviter le sujet ô combien sensible, la relation extra-conjugale qu'entretenait le prince Charles et Camilla Parker Bowles. La série donne l'image d'un prince Charles froid et distant, laissant sombrer son mariage avec Lady Di. De quoi réveiller la colère de nombreux Britanniques qui l'ont fait savoir aux deux protagonistes sur Twitter. Oui, et résultat, quand l'épouse de Charles publie cette vidéo il y a 2 jours.
The 25th of November,
Voilà, message dans lequel la duchesse de Cornouailles adresse un message à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Eh bien, il était impossible de le commenter sur le réseau social. C'est-à-dire que le prince et Camilla Parker Bowles ont tout bonnement décidé de fermer les commentaires de leur compte Twitter commun, le compte
officiel.
Voilà, le compte du couple. Ils ne veulent plus se faire insulter. Plus possible donc de réagir aux messages, aux photos ou aux vidéos du couple qui étaient submergés par les messages de haine depuis la sortie de la nouvelle saison de The Crown, quand Buckingham subit le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Madame Figaro.
Ouais, et c'est vrai que bon, c'est dur cette histoire. Oui. Et on voit que Diana était très malheureuse dans cette série. Oui. The Crown, qui est un gros succès sur la plateforme. Tout le monde était malheureux, effectivement, y compris Charles d'ailleurs, dans la série The Crown, donc, qui est sur la plateforme Netflix. Allez, il est temps de vous dire qui est l'actrice française, élue par le New York Times meilleure actrice du 21e siècle, en tout cas donc 21e siècle jusqu'à présent, hein, classement établi donc sur ces 20 dernières années. C'était elle, écoutez.
Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Qui non mais il est fou, j'ai l'habitude, c'est ma spécialité.
Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu Isabelle Huppert dans le film Elle, rôle qui lui avait valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Eh bien c'est bien elle, Isabelle Huppert, que le New York Times considère meilleure actrice de ces 20 dernières années. Intrépide, envoûtante, effrayante, parfois bizarre, écrit le journal américain. Elle a assumé un éventail étonnant de rôles, passant des larmes aux cris, des histoires droites comme dérangées. Tiens, voilà une autre d'histoire dérangée.
Et diminuendo, et mezzo forte, forte, fortissimo, sfrontatissimo. Les indications de Schubert vont du cri au murmure, et non de parler fort à parler doucement. L'anarchie ne semble pas être votre fort, Clémère. Pourquoi ne pas vous en tirer à Clémenti?
Voilà, la pianiste, c'était Isabelle Huppert dans La pianiste de Michael Haneke avec aussi Benoît Magimel. Grand prix du jury à Cannes, prix d'interprétation cette année-là pour Isabelle Huppert. Alors il y a 25 noms hein, dans ce classement, suivent notamment Nicole Kidman et Julianne Moore. Mais c'est un classement mixte et Isabelle Huppert est en fait numéro 2. Le numéro 1 est un homme. Et c'est l'un des seuls acteurs noirs à avoir obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Vous l'avez ou pas?
Oui.
Oui.
Allez.
Denzel Washington.
Denzel Washington, joli.
They build jails because of me. Judges have handed out over 15,000 man years of incarceration time.
Et ce rôle, hein, cet Oscar, c'était pour ce rôle de flic dans Training Day en 2001 dans les quartiers difficiles de Los Angeles. Denzel Washington dépasse les catégories, dit le New York Times, un titan à l'écran qui est aussi un artiste subtil et sensible. Et puis, bon, pour terminer, qui complète ce podium? Immense acteur aussi, le troisième donc sur le podium, c'est Daniel Day-Lewis, le Britannique, sœur Daniel Day-Lewis, grand acteur. Anobli par la reine, c'est encore vrai. Elle. Le seul acteur à avoir remporté 3 fois l'Oscar du meilleur acteur. Ouais, c'est gros. Pour notamment There Will Be Blood.
Mesdames et messieurs, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier.
Voilà, There Will Be Blood, là, c'est la version française, hein, signée Paul Thomas Anderson. Il est chercheur de pétrole en Californie. Donc Daniel Day-Lewis, il a aussi obtenu l'Oscar pour Lincoln à l'époque. Voilà, pour le pressing du jour pour terminer la semaine.
Ça donne des idées de films pour ce week-end.
Exactement.